Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Oui, le possible recul sur le droit à l'avortement aux États-Unis, ça a des échos jusqu'ici, jusqu'au Québec. C'est une grande partie de la classe politique qui a senti le besoin de réitérer son appui au droit à l'avortement pour celles qui le désirent. À Ottawa et à Québec, ce sont les partis conservateurs qui sont mis sur le grill dans le contexte. À Ottawa, il y a plusieurs députés qui sont conservateurs et qui sont contre l'avortement. Ça rend, disons, ce parti-là un peu vulnérable à ces questions-là. On l'a vu il y a quelques années pour le chef Andrew Scheer en débat à TVA. Par exemple. À Québec, on ne connaît pas de députés qui sont ouvertement anti-avortement, qu'importe les partis, mais le Parti conservateur d'Éric Duhaime compte présenter un candidat qui est opposé à l'avortement. La CAQ et QS ont demandé au chef du Parti conservateur, M. Duhaime, d'écarter ce candidat. Le chef du Parti conservateur du Québec est au bout du fil. M. Duhaime, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Bon, Dr. Roy Eppen, je pense que je le prononce correctement. Eppen, bon, c'est un de vos candidats, c'est un de vos conseillers en matière de santé. Résumez-nous sa position sur l'avortement.
Ben écoutez, en 2015, sur un blog, il a écrit qu'il était favorable, il était pro-vie, il croyait que la vie commençait à la conception. Et donc, c'est un homme qui a des convictions religieuses. Et en conférence de presse, quand j'ai annoncé sa candidature, on en a parlé. Et il a dit qu'il avait compris que le parti était pro-choix, parce que moi-même, vous savez que je suis pro-choix, et que il n'était pas question d'aucune façon d'interférer avec la position du parti qui se ralliait au consensus, mais que personnellement, il y avait des convictions religieuses et qu'il continue à croire que la vie commence à la conception.
OK. Le saviez-vous avant de le recruter?
Oui.
Ça, il vous l'a dit ou vous l'aviez découvert?
Je le savais déjà. Je connais Roy depuis plusieurs années. On était à l'époque au Réseau Liberté Québec, il y a plus de 10 ans. On a cofondé ça ensemble avec un paquet de monde. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien. Je savais que c'est un homme de foi. C'est un immigrant qui est arrivé ici, comme plusieurs personnes issues des communautés culturelles qui ont des pratiques religieuses plus fréquentes et plus fidèles que les nôtres. Et je savais que sur ces questions morales-là, il avait une position qui était différente de la mienne.
OK. C'est pas une ligne rouge pour vous?
Non, parce que à partir du moment où la ligne du parti est claire, puis qu'il y a une position qui est clairement définie, puis de toute façon, je vous rappelle que l'avortement, c'est une compétence fédérale. Hein, le Code criminel, c'est pas l'Assemblée nationale où les décisions se prennent. Et pour moi, c'est pas un enjeu. Je veux dire, ça ne définit pas quelqu'un. Puis les gens qui ont des convictions religieuses ont encore le droit de faire de la politique et d'être candidats au Québec. D'ailleurs, je trouve la demande de François Legault et de Québec solidaire très particulière, parce que si on commence à exclure des gens d'avoir le droit de se porter candidat parce qu'ils pensent pas comme nous sur des questions morales et qu'ils s'engagent même à ne pas en faire mention sur la place publique, je trouve qu'on va très, très, très loin. Puis moi, ça m'inquiète, cette dérive-là.
Écoutez, je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce que l'angle que vous donnez à cette affaire-là, c'est, je reprends vos mots, vous dites, on va pas interdire aux gens de se présenter pour leurs convictions. Je pense pas qu'il s'agisse d'interdire aux gens de se présenter. Mais les partis font des choix. Je veux dire, quelqu'un qui serait anti-laïcité, je pense pas qu'il pourrait se présenter pour la CAQ.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le caucus de la CAQ actuellement qui va à l'église le dimanche?
C'est quoi le rapport?
C'est pas important. Mais c'est quoi le rapport? C'est que c'est des convictions religieuses personnelles. Puis à partir du moment où on s'entend sur un contenu politique, on n'a pas d'affaire à entrer dans la vie du monde pour savoir si ou non le dimanche ils sont à l'église ou s'ils sont chez eux ou s'ils sont avec leur maîtresse. C'est pas de nos affaires. C'est ça mon point.
OK. Juste pour comprendre, M. Duhaime, pour vous, avoir une maîtresse, c'est comme être contre l'avortement?
Non, ça n'a pas rapport. C'est juste que c'est pas de nos affaires. Ce qui se passe le dimanche après-midi pour savoir est-ce que oui ou non il va à l'église, est-ce que oui ou non? Puis c'est, il y a des communautés, vous le savez mieux que moi, M. Lagacé, à Montréal, il y a des communautés culturelles où les pratiques religieuses sont beaucoup plus importantes. Si on commence à dire que tous les grands partis peuvent plus présenter de candidats qui ont des convictions religieuses-là,
non, mais...
est-ce que ça veut dire que ces communautés-là ont plus le droit d'avoir de candidats aux élections puis de députés à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est ça? Il y a une dérive antidémocratique là-dedans qui, moi, m'inquiète en tant que citoyen. tous les Québécois sont égaux. Tous les Québécois, tous les électeurs ont droit d'être candidats à une élection générale.
Ben oui.
Et c'est pas vrai qu'on va commencer à exclure des gens parce que dans leurs convictions personnelles, ils ont la foi, puis ils croient en Dieu, puis ils croient en
Dieu. Il y a des partis politiques qui font des choix. Il y a des partis politiques qui découvrent des choses sur des candidats et qui les excluent. Le candidat n'est pas exclu de la vie politique. Il peut se présenter comme indépendant. Je veux dire, la CAQ a exclu un candidat qui était lié à des firmes là, qui faisaient du prêt usuraire avant la dernière élection. C'est un choix que le parti fait. Vous, vous avez fait le choix de le garder. Je vous en fais pas le reproche. Je vous demande de l'expliquer.
Mais je l'explique. C'est que moi, je crois que les gens sont capables, je pense qu'ils sont capables d'avoir des convictions religieuses, puis on a une place dans le parti, à condition qu'ils acceptent que c'est pas la place. C'est pas la position officielle du parti. Il y a même des positions, moi, avec lesquelles, dans le parti, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dans la plateforme, mais je suis obligé de vivre avec. Et c'est normal. Là, je pense qu'on n'est pas des robots lobotomisés parce qu'on devient membre d'un parti politique. C'est normal qu'il y ait des enjeux sur lesquels on est moins à l'aise, on est moins confortable avec les positions du parti, mais c'est aussi normal qu'on est solidaire de l'équipe et puis qu'on vote dans le sens du parti. Donc, c'est ça, la politique. Le moment donné, faut aussi faire des compromis.
Vous m'ouvrez la porte, M. Duhaime, avec quelle position de votre parti vous êtes moins d'accord?
Ben, je l'ai dit, puis ça a été public parce qu'il y a eu un congrès au mois de novembre dernier sur l'immigration où je voulais qu'on ajuste les seuils d'immigration en fonction de l'employabilité, c'est-à-dire si quand il y a un taux de chômage très élevé, qu'on puisse limiter le nombre d'immigrants, puis quand on est en pénurie de main-d'œuvre, qu'on puisse augmenter le nombre d'immigrants. Les membres ont décidé, il y avait 800 membres réunis à Québec, ils ont démocratiquement décidé que c'était pas la position officielle du parti, puis je me suis allié au consensus démocratique.
OK. Dans une de mes questions, je vous ai demandé, c'est pas une ligne rouge pour vous que ce candidat-là ait des convictions qui le poussent à être contre l'avortement? Qu'est-ce qui serait une ligne rouge pour le chef conservateur quant à un candidat? Qu'est-ce qui ferait qu'un candidat serait disqualifié par le chef?
Quelqu'un qui a un passé criminel, quelqu'un qui m'a menti dans ses déclarations quand il se présente, c'est quelqu'un qui a menti sur son CV. Puis d'ailleurs, la CAQ, ça ne les a jamais empêchés. Moi, j'en connais. Il y en a même un qui est ministre et qui a déjà menti sur son CV. Donc, il y a des choses avec lesquelles je ne ferais pas de compromis, mais le fait que la personne a des convictions religieuses puis qu'il y a des communautés culturelles qui sont plus attachées à certaines valeurs, moi, je pense qu'il faut respecter ça en tant que démocrate.
Parce que les convictions religieuses, M. Duhaime, c'est assez vaste, là. Il y a des gens qui soient chrétiens ou autres, par exemple.
Non,
laissez-moi finir ma question. Moi, je rebondis sur ce que vous me dites. Fait que, il y a des gens très croyants qui vont, par exemple, croire aux thérapies de conversion pour amener les gays à l'hétérosexualité. Ça, est-ce que pour vous, ce serait une ligne rouge?
Ben oui, c'est sûr. Ben, ça dépend. Moi, s'ils pensent ça dans leur privé, puis ils n'en parlent pas sur la place publique. Peut-être qu'il y en a même déjà des députés à l'Assemblée nationale qui pensent ça.
Non, on parle de vos candidats.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils vont dire publiquement, puis qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement s'ils sont élus. Et c'est ça qui est important quant à moi.
Oui
et
ou non?
Les gens...
Quelqu'un qui croirait à thérapie de conversion, c'est une ligne rouge pour vous.
Monsieur Lagacé, vous savez que je suis le premier chef conservateur dans l'histoire du Canada, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, qui est ouvertement...
Est-ce que ce serait une ligne rouge?
Laissez-moi juste finir. C'est public, là. C'est pas un secret, là. Et je pense que tous les candidats, quand ils me rencontrent, ils le savent très bien.
Oui.
Il n'y a pas un candidat qui va aborder cette question-là. Puis comme vous dites ça, c'est bien évident. Là. Fait que c'est jamais arrivé, puis ça n'arrivera pas. Puis ça arrive, bien, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Là. Tu peux pas, il ne pourrait pas être contre... C'est de me dire qu'il faut que j'aille en thérapie de conversion, là, quand même. Là.
OK. Donc, thérapie de conversion, non, mais avortement, oui.
Mais c'est pas. Monsieur Hilton a dit qu'il n'a jamais voulu, il veut jamais changer quoi que ce soit, là. Il a juste des convictions religieuses. Mmh. D'ailleurs, je trouve ça très hypocrite, monsieur Lagacé, quand j'entends des gars comme Gabriel Nadeau-Dubois aujourd'hui me faire la morale puis me dire qu'il ne faudrait pas prendre un candidat parce qu'il a des convictions religieuses, alors que lui-même, dans son parti aux dernières élections, avait une candidate voilée. Moi, je trouve ça très contradictoire et très hypocrite et très partisan. Puis je trouve ça bizarre qu'il y a du monde qui tombe dans ce panneau-là. Expliquez-moi donc, pensez-vous vraiment que Eve Thorez qui porte le voile, que c'est une femme qui est pro-choix, c'est vous?
Je sais pas, mais je vous promets que si je l'invite, vous allez poser la question.
J'aimerais beaucoup ça, vous lui demandiez. Mais, c'est bizarre, hein, mais elle s'est jamais fait demander la question, alors que moi, tous les candidats par les médias sont posés systématiquement la question.
C'est
quand même curieux, ce double standard, des fois. Hein?
Mais, M. Duhem, je me souviens que Mme Thorez s'est fait poser des questions à propos du voile. Je suis désolé, là. Mais je reviens à ça, c'est intéressant, parce que là où vous êtes en train de vous faire découvrir du public québécois, les gens veulent pas juste connaître vos positions, mais qu'est-ce qui vous motive quand vous prenez des décisions? Puis ce que vous me dites, c'est que la ligne rouge sur les convictions religieuses, vous voulez pas vous en mêler, mais si quelqu'un pense que les gays pourraient redevenir hétéros, ça, ce serait une ligne rouge, il serait pas candidat pour vous.
Quelqu'un qui me dit ça. Moi, ce que je veux, là, c'est de respecter la liberté de choix des gens. On vit encore dans une société démocratique où tout le monde a le droit de se présenter. Aujourd'hui, là, François Legault a dicté que les députés du la CAQ était tous pro-choix. Il y a une députée à 2 heures qui est allée dire qu'elle pensait que les candidats pro-vie avaient le droit de se présenter.
Qui ça?
Après qu'elle se soit fait taper les doigts, la députée de Saint-François, qu'après qu'elle se soit fait taper sur les doigts par le bureau du premier ministre, à 3h30, l'attachée de presse de la CAQ est allée revoir les journalistes pour leur dire qu'elle avait mal compris la question. Comprenez-vous comment? Moi, là, je m'excuse, mais je veux pas vivre dans un parti comme ça où le chef dicte puis dit tout puis que les gens ont plus de liberté de parole. Et c'est un des problèmes au Québec. Parce que la CAQ est très populaire présentement.
Ce que vous vivez présentement, regardez, on parlera de la CAQ une autre fois, là, mais ce que vous vivez présentement, je m'excuse de vous le dire, c'est ce que tous les chefs de parti vivent. Ils se font parfois talonner sur le choix de certains candidats. Ça s'est vu de tous les partis.
J'ai aucun problème avec ça. Ce que je vous dis aussi, c'est que y a la CAQ même, qui regardez même les autres partis, là, je veux dire, qui sont-ils pour parler aujourd'hui? Puis si on commence à dire que les candidats qui ont des convictions religieuses n'ont plus le droit de se présenter, c'est quoi la prochaine étape? Ils n'ont plus le droit de voter? Puis c'est qui? Ou les gens de quelle minorité à qui on va soustraire des droits? Moi, je suis d'abord et avant tout, M. Lagacé, un démocrate, puis je l'ai prouvé même dans les 2 dernières années. Mm. Moi, je ne crois pas à ça que le gouvernement doit discriminer des citoyens, puis doit diviser la société en deux, puis doit dire que lui est essentiel, puis lui n'est pas essentiel, ou elle a le droit de rentrer au restaurant, puis lui n'a pas le droit de rentrer au restaurant. Moi, je suis quelqu'un qui croit aux libertés fondamentales, puis aux droits civiques des citoyens. Je pense que tout le monde est égal. Au Québec, on est tous des Québécois
et des démocrates. Ce sera tout. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Il n'y a pas de bonne candidate ou de mauvaise candidate à l'avortement. Il y a juste des personnes qui essaient de contrôler un corps qui ne leur appartient pas sous le couvert de la vertu. Et il n'y a rien de vertueux à persécuter les femmes et leur enlever leurs droits. C'est un extrait du statut Facebook de l'humoriste Mélanie Couture, publié aujourd'hui, où elle raconte sa propre expérience d'avortement. Mélanie, salut!
Bonjour Patrick, comment ça va?
Oui, moi ça va bien. Je sens que pour toi, oui, ça a été, disons, un cheminement assez émotif que de publier ce que tu as écrit sur Facebook aujourd'hui. Résume aux gens pour les gens qui nous écoutent ce que tu as écrit.
Ben en fait, je pense que je suis plus fâchée que dans la grosse émotion. C'est arrivé il y a quand même plusieurs années. À 31 ans, j'ai dû avoir recours à l'avortement. Puis plus ça allait, puis plus avec le sujet qui se passe en ce moment aux États-Unis. T'sais, hier, j'ai entendu Catherine en parler à la radio et je me rendais compte que il y avait beaucoup de femmes qui semblaient sentir une certaine colère. Puis t'sais, je sais quand même que j'ai une facilité avec les mots. Fait que j'ai fait, il me semble que j'ai envie de mettre des mots sur ce que bien des femmes sont en train de ressentir en ce moment. Fait que j'ai écrit ce statut-là, comme quoi, peu importe, moi j'ai expliqué ma façon que ça s'est passé, pourquoi j'ai dû avoir recours à un avortement, mais en bout de ligne, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, ça pourrait être quelque chose de bien simple comme quelque chose de bien traumatisant. C'est pas ça l'important.
Et t'écris, il y a autant de raisons et d'histoires qu'il y a de femmes, et c'est franchement pas de vos affaires le pourquoi.
Oui. Parce que je me rends compte que l'avortement est quand même accepté. Bon, si on parle en général dans notre société au Québec, mais on se met à disséquer le pourquoi. si le pourquoi devient acceptable selon un tel ou une telle, là, ça devient acceptable. Donc, ça devient très personnel comme jugement et ce n'est pas un jugement personnel, selon moi. C'est un jugement de société, c'est un droit de société, puis rendu là, ça regarde personne.
Fait que toi, l'argument qui revient, là, puis quand il est question d'avortement, là, faut pas parler ben longtemps avec certaines personnes, souvent des hommes, pour que l'argument suivant arrive dans la conversation. Ouais, mais c'est pas un moyen de contraception.
Mais on le sait, voyons. J'haïs ça, cette affaire-là, Patrick. Ouais, qu'on le sait pas. Franchement, tu penses que nous autres, on fait comme, ben oui, moi, tu peux prendre une douzaine, moi, t'en prendre un paquet de 12, ça vient moins cher. Il n'y a pas personne qui tripe à aller se faire avorter. Il y a pas, tu sais, je veux dire, si la personne est en train de le faire en série, là, dites-vous que c'est parce que ça va pas bien dans sa vie, là. Je connais personne qui fait ça en série, puis que ça va bien. Je connais personne non plus qui va 12 fois en détox, puis que ça va bien, mais il faut qu'il y aille pareil. Fait que ça m'insulte de penser que le monde disait que c'est une petite affaire banale, puis qu'on est capable de passer. Je connais aucune fille qui fait ça sur le fly, là, sur le bord de la table à café. Là.
Et ça n'a pas été ton cas, et j'aimerais que tu expliques aux gens, pour ceux qui restent à être convaincus, que c'est jamais une procédure qui se déroule de gaieté de cœur.
C'est jamais une procédure qui se déroule de gaieté de cœur, malgré le fait que moi, j'avais la certitude que je ne voulais pas cet enfant-là, que je ne voulais pas être accrochée à cet homme-là pour le restant de mes jours, que je ne voulais pas vivre ça en habitant dans un 2,5 artiste pauvre que je l'étais à l'époque. J'ai quand même pleuré en boucle sur Pierre d'Ange d'Ariane Moffat. Je me suis quand même dit, hey, c'est peut-être mon seul espoir. Je le fais-tu? Si je le fais pas, après ça, je vais tomber infertile. Je vais m'en vouloir dans le temps de mes jours. C'est pas des petites questions qu'on se pose, là, avant d'y arriver, là. Ce sont des grosses questions qui viennent avec beaucoup d'émotions, des pleurs. On cherche un réseau pour nous aider dans ce temps-là. On trouve les gens qui nous jugent le moins au monde. Dans mon cas, gros privilège, c'était mes parents. Puis on le vit et on, c'est pas une partie de plaisir, là.
Merci, Mélanie. C'est un témoignage vraiment qui est percutant, comme beaucoup de témoignages que j'ai lus de femmes comme toi qui ont expliqué à quel point c'est dur puis à quel point on l'oublie jamais aussi.
Ça fait du bien de sentir la solidarité.
Merci beaucoup. Salut.
Bye, bonne soirée.
C'était l'humoriste Mélanie Couture. Vous pouvez lire sa publication sur Facebook. Je me tourne maintenant vers les États-Unis. Liz Plank est une journaliste québécoise qui fait carrière là-bas. Elle est l'autrice d'un livre qui s'intitule « Pour l'amour des hommes », un livre très intéressant qui a été publié, si je ne m'abuse, l'année passée. C'est sur la masculinité toxique. Évidemment, la question de l'avortement aux États-Unis qui est menacée par une éventuelle décision de la Cour suprême, ben, ça l'interpelle au plus haut point. Liz, bonjour.
Bonjour, Patrick.
D'abord, ben, peut-être, je sais que tu écoutais l'entrevue que j'ai faite avec Mélanie Couture. Peut-être rebondir là-dessus avant qu'on tombe carrément dans la politique américaine.
Ben, écoute, je trouve que c'est extrêmement courageux de Mélanie, de puis plein d'autres femmes, vraiment, là, que ce soit au Québec, aux États-Unis ou à travers le monde, de partager ces histoires-là, c'est vraiment important. Ce que j'aimerais encore plus, ce serait que les hommes aussi partagent leurs histoires, que ce soit d'avortement ou juste, tu sais, le droit à l'avortement, ça aide tout le monde. Ça nous aide comme société dans le sens que ça donne plus de liberté à tout le monde et ça veut dire que les gens ont des enfants quand ils veulent des enfants et si ont assez d'argent pour avoir des enfants. Mais ça aide aussi beaucoup d'hommes qui sont engagés dans ces décisions-là. Que toi, je suis sûre que ça t'a aidé aussi de pas avoir d'enfants quand tu n'as pas d'enfants dans ta carrière, dans ta vie. Donc, je trouve que c'est important que tout le monde parle justement comment que le droit à l'avortement, ça les a aidés dans leur vie, peu importe leur genre.
Est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe aux États-Unis, ça élargit la conversation, ça l'a mise au centre de la société, pas juste aux États-Unis. OK, parlons, Liz, de cette société-là où tu évolues. Tu as écrit quelque chose sur ton site Substack qui est très intéressant. Tu dis on peut pas simplement bannir l'avortement, on peut seulement bannir les avortements sécuritaires. Et je trouve que, pour commencer la conversation, c'est une discussion c'est une nuance qui est importante.
Mm-hmm. Oui, en fait, la décision de la Cour suprême, si c'est cette décision-là qui va se passer, c'est une décision très, quasiment médiévale dans une société moderne. Tu sais, les femmes ont toujours, même quand l'avortement était illégal, ont toujours trouvé une façon de se faire avorter. Mais on sait évidemment que quand c'est illégal, c'est moins sécuritaire et que les femmes vont justement souvent en mourir. Donc, l'idée que c'est sûr qu'il y a 5 juge sur la Cour suprême qui décide, ben l'avortement va être illégal, fait que ça va arrêter, on n'aura plus. C'est simplement pas vrai. Donc, même aux États-Unis en ce moment, ce qu'on voit, c'est que ben, ça fait longtemps qu'on savait que cette décision-là allait sûrement se passer. Donc, ça fait des mois, c'est pas des années, en fait, qu'il y a des networks, en fait, de femmes qui s'organisent. Il y a des ce qu'on appelle une pilule, en fait, là, pour se faire avorter. La moitié des avortements aux États-Unis qui se passent en ce moment, là, c'est une pilule. C'est pas dans une clinique. Donc, de dire qu'on va contrôler les femmes comme ça, puis que les femmes vont pas s'en sortir. Moi, je trouve ça très... je trouve que c'est pas une réalité dans laquelle on vit.
Liz, est-ce qu'il y a un État américain, même dans les États rouges, le républicain, où la restriction, l'abolition de l'avortement légalisé est a une majorité, disons, dans les sondages?
Excellente question. Je pense que c'est le genre de question qu'il faut vraiment qu'on se pose. Et la question, c'est et la réponse, en fait, c'est non. Donc, dans tous les États, que ce soit justement les États où ils sont plus axés vers des législateurs qui sont démocrates ou républicains, ça dépasse jamais plus que 30%. Puis, c'est pas juste la majorité des gens qui sont démocrates qui ne veulent pas qu'on n'ait plus le droit à l'avortement, c'est aussi la majorité des républicains, c'est la majorité des gens qui sont indépendants. Ça, c'est des blocs vraiment importants aux États-Unis. On s'en va dans une élection. Donc, c'est pas populaire du tout. Puis en fait, on voit que les républicains en ce moment passent beaucoup de temps à parler du fait que cette décision-là a été partagée, tu sais, qu'elle a été, que ça a été partagé sans consentement, puis que c'était pas supposé se passer comme ça. Ils passent plus de temps à parler de ça que de parler des implications en fait de cette décision-là puis de l'avortement parce qu'ils savent que c'est pas très populaire. Évidemment, il y a des gens qui sont contre l'avortement dans leur propre vie. Il y a beaucoup de gens qui diraient moi si c'était ma décision, je me ferais pas avorter. Puis ça, évidemment, on le respecte. La plupart des gens vont arrêter là. Ils vont pas dire parce que moi je veux pas me faire avorter, les autres peuvent pas se faire avorter. Ça, c'est une position très radicale qui ne représente pas la majorité des Américains.
Qu'est-ce que tu as pensé de la réponse des progressistes, des démocrates? Les ténors démocrates ont dit, écoutez, il faut se battre politiquement, il faut élire encore plus de politiciens démocrates. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là?
Je pense que c'est une pilule vraiment dure à... c'est vraiment dur à prendre pour surtout le mouvement progressiste puis les gens que ça fait longtemps qu'ils votent démocrate, qui vont faire du bénévolat, je veux dire, qui se présentent aux élections et qui ont voté pour des gens qui sont pro-choix, qui se font dire ça, tu sais, que faut encore plus que tu travailles fort. Ça tombe sur le dos des gens, tu sais, des électeurs au lieu des politiciens pour qui ont élu pour faire ce travail-là. Donc, je pense que moi, je me dis que j'espère que c'est un moment, puis j'espère que la personne qui a partagé cette décision-là l'a fait pour une raison, puis l'a fait pour peut-être secouer les politiciens, pas juste républicains, mais démocrates aussi, à faire quelque chose. Il y a plus d'idées, on pourrait avoir plus de juges sur la cour. Il y a beaucoup de choses que Biden pourrait faire. Puis c'est ça, la question, c'est est-ce qu'ils vont avoir le courage de le faire? Puis je pense que juste de s'attendre que ça va les aider au mois de novembre à l'élection, puis se dire ben les gens vont encore se présenter pour nous, puis ils vont voter démocrate, peu importe ce qu'on fait, je pense pas que c'est vrai.
En terminant, OK, est-ce que t'as espoir que ce brouillon-là qui a été coulé de façon exceptionnelle aux médias, ce soit juste ça, un brouillon, et que la vraie décision ne soit pas celle-là? Peut-être parce que, justement, les Américains, les Américaines surtout, auront dit leur déplaisir.
J'aimerais ça être optimiste. Je suis optimiste pour mille raisons, mais je suis pas très optimiste que la décision va être changée parce qu'en fait, maintenant que ça a été partagé avec le public, je pense que les juges qui sont conservateurs vont être encore plus ancrés dans leur position. Ils vont encore plus pas vouloir être vus comme, c'est ça, avoir changé leur position. Je pense qu'ils pensent qu'ils auraient l'air plus faibles si justement l'opinion du public pourrait avoir un un effet sur leur opinion. Donc, non, j'aimerais ça. C'est sûr que je vais être bien contente si j'ai pas raison, mais je pense que ça va être la décision qu'on va avoir. Puis, c'est ça, on va voir ça va être quoi la réponse. Puis peut-être que, justement, ça va secouer les démocrates à faire quelque chose d'encore plus gros pour le mouvement progressiste, puis qu'on arrive à, c'est ça, une meilleure société qui est plus égale pour les femmes.
Merci beaucoup, Liz. Toujours un plaisir d'échanger avec toi.
Merci, Patrick.
Bonne soirée. Salut. C'était Liz Plank, Elisabeth Plank, qui est une journaliste québécoise féministe qui fait carrière aux États-Unis, chroniqueur pour MSNBC et aussi autrice du livre à succès Pour l'amour des hommes. J'ai avalé mes cornflakes de travers ce matin en lisant ma collègue de la presse, la chroniqueuse Marie-Ève Fournier, qui nous parle d'un type de fraude qui, ma foi, démontre à quel point ces gens-là peuvent être, disons, de façon assez diabolique, mais très, très, très compétents, on va dire ça comme ça, très originaux. Salut Marie-Ève!
Bonjour Patrick, désolé pour ton déjeuner.
Ben oui, non, j'ai faites-en pas là, je me suis pas étouffé, mais j'ai avalé de travers. Explique aux gens la nature de la fraude à l'Interac dont ils pourraient devenir les victimes.
Mais ce que très peu de gens savent, c'est qu'on peut utiliser l'Interac pas seulement pour payer des gens, mais aussi pour aller chercher de l'argent directement dans leur compte bancaire. Et là, il y a des petits malins qui sont mieux informés que la moyenne des ours et eux savent que cette fonction existe. Mmh. Ça existe depuis 2017, mais très peu de gens sont au courant. Alors là, ce qui est arrivé à un couple, Christian et Marie-André, c'est qu'eux avaient mis leur voiture à vendre là, en ligne. Et il y a un malfaiteur qui les a appelés. Il a dit « Je vais vous verser un dépôt de 2 500 $ pour réserver le véhicule, puis je passe le chercher dans quelques jours. » Eux sont très contents, reçoivent un courriel d'Interac, le même courriel qu'on reçoit tout le temps, se méfient pas trop parce que, bon, ils en ont reçu déjà tellement depuis des années, cliquent sur « D'accord, j'accepte la demande » et finalement, ben le 2 500 $ a été retiré de leur compte de banque plutôt qu'y être déposé.
Tu vois, Marie-Ève, c'est là que j'ai avalé de travers parce que moi, je me sers souvent de cette fonction-là pour virer de l'argent à des gens, là, comme mon fils. Je trouve ça fantastique. T'sais. On a pu aller jusqu'à la caisse pour retirer de l'argent. Mais je savais pas que certaines banques permettaient l'effet inverse, c'est-à-dire d'envoyer une requête à quelqu'un et dire « donne-moi X dollars ». Moi, si on m'envoie ça, Marie-Ève, j'ai vu que ma banque fait pas partie des institutions financières qui permettent ça, là. Mais si on m'envoie ça, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui veut me donner de l'argent. Parce que je pense que ma certitude avant de te lire ce matin, c'est que ça se faisait juste dans une direction.
Ben oui, c'est ça. J'avais le goût d'appeler ça un virement Interac à l'envers, là, mais c'est un peu ça, dans le fond. Et puis, mais c'est curieux, ça existe depuis 2017, mais Interac ne semble pas avoir fait beaucoup de publicité là-dessus, là, parce que personne n'est au courant. En plus, ben, le message, je ne trouve pas personnellement qu'il est si clair que ça, parce qu'il ne dit que Patrick, vous avez reçu une demande pour X dollars. Oui. Mais ça dit pas est-ce que c'est une demande de dépôt, une demande de retrait. Ça dit juste demande. Alors, effectivement, quand on a reçu, je trouve, plusieurs demandes de dépôt depuis des années, ben, ça se peut qu'on dise oui sans se dire, ah, cette fois-ci, c'était une demande tout court. Ah, mon Dieu, c'est différent. Qu'est-ce que c'est? Donc, je comprends un peu ce couple de s'être fait avoir, là.
Oui, ben, ce que je décode à la lecture de ta chronique, là, c'est que ces gens-là étaient certains aussi que c'était unidirectionnel. Quand t'as une demande semblable, c'est qu'on veut te donner de l'argent. Le fraudeur a joué sur, disons, cette ambiguïté-là. Et ces gens-là ont été floués de 2 500 $. Qu'est-ce que leur banque a dit et comment se sont soldés leurs recours?
Bien, eux, ça fait depuis là, le mois de décembre, début janvier, là, qu'ils envoient des lettres à leur banque et qu'ils se sont rendus en succursale. Ils ont envoyé plusieurs lettres. Ils ont fait beaucoup de démarches. Et finalement, bon, le niveau le plus haut placé à la banque là, leur a dit qu'ils avaient accepté en toute connaissance de cause. Donc, ils avaient appuyé sur le bouton et que, bon, ils étaient responsables de leurs actes et que la banque n'avait commis aucune faute. Donc, la garantie de sécurité qui est offerte par les banques, là, sont des victimes de fraudeurs, ne s'appliquait pas à eux. Ils étaient responsables de leurs agissements.
Mais ils sont pas responsables du mauvais design, si on veut, de l'interface.
Non, mais ça, effectivement, ils sont pas responsables de ça, mais peut-être que, dans le fond, c'est des démarches contre Interac qui devraient être entreprises, parce que la banque peut pas être responsable non plus du design du courriel qui, dans le fond, est généré par Interac. Donc, eux ont porté plainte à la police, ils ont porté plainte au centre antifraude, ils ont porté plainte partout, mais souvent, c'est ça le problème, Patrick, c'est à qui on porte plainte, qui peut faire quelque chose, qui peut changer les choses, qui peut nous aider, c'est pas simple.
Marie-Ève, dans le cadre de ton travail de chroniqueuse financière, économique à la presse, t'en vois souvent, t'en soumets des fraudes. Ça doit être parmi les plus bizarres, ça.
Ben, en fait, c'est que c'est une fraude tellement simple que la personne n'a rien fait d'illégal. C'est ça qui est particulier, c'est que c'est pas un génie, là, cette personne-là, qui a réussi à découvrir un mot de passe puis à entrer dans l'ordinateur ou à créer un faux site Interac. Il y en a beaucoup qui font ça, hein, des faux sites pour essayer de récupérer des informations personnelles. Le fraudeur a utilisé quelque chose de très simple, de totalement légal, la personne a consenti. Je veux dire, c'était même pas compliqué. C'est ça qui est particulier, c'est que ça demandait aucune expertise informatique. On parle pas d'un hacker là surdoué ici. Là. On parle vraiment de quelqu'un qui a utilisé une fonction très, très simple.
Marie-France, Marie-Ève, il y a, tu sais, on dit que c'est un virement Interac, quelqu'un m'écrit, c'est un videment Interac. Et là, autre question, et ce sera la dernière, collègue, là, on me demande quelle banque permet ça, parce que c'est pas toutes les banques qui participent au système Interac qui permettent ce genre de procédé-là.
Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut se faire vider son compte de banque avec cette fonction-là, peu importe dans quelle banque on se trouve. Donc, si on est chez Desjardins et qu'on peut recevoir une demande de fonds. Par contre, c'est pas tout le monde qui peut faire des demandes de fonds. Et pour ça, il faut être un client soit de la banque TD, de la Scotia, de la Royal. Et là, la BMO, c'est moins clair. Sur leur application, ça fonctionne pas, mais on me dit qu'en ligne, ça fonctionne.
OK. Mais sinon, via les autres institutions financières, on peut pas.
Exact.
C'est vraiment... Écoute, j'ai avalé mes cornflakes de travers. Méfiez-vous. On peut lire les détails dans ta chronique, mais je pense que avant de peser sur le petit piton, faut vraiment, vraiment lire très attentivement et rien prendre pour acquis dans le cas d'un virement Interac.
C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner.
Merci, Marie-Ève.
Merci, Patrick.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Ben, la troisième fois aura finalement été la bonne. Le directeur national de la santé publique par intérim, Dr. Luc Boileau, qui a confirmé aujourd'hui que dès le 14 mai, dans la plupart des lieux publics au Québec, on pourra larguer le port du masque. On sait qu'il y avait eu des reports à la mi-avril et au début mai aussi. Ben là, c'est dans 10 jours. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des avantages? On parle de tout ça avec Dr. Catherine Hankins, professeure de santé publique et en santé des populations à l'Université McGill et aussi coprésidente du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Professeur Hankins, bonjour.
Bonjour, Patrick Lagacé.
Est-ce que c'est une décision d'un point de vue de santé publique qui se défend?
C'est-à-dire, il faut regarder le port du masque. C'est vraiment un moindre mal. C'est quelque chose qui est... C'est une mesure facile à adopter, à appliquer. Ça fait 21 mois qu'on le fait au Québec et on le fait bien.
Oui.
Alors, je pensais bien qu'il y a des places où on va continuer à être obligé à porter le masque. Ça veut dire dans les transports en commun. C'est très difficile de gérer les distances entre les passagers. Dans les établissements de la santé, les cliniques médicales, les CHSLD, quand il y a des éclosions, mais aussi quand il y a des personnes vulnérables, quand on est en présence des personnes vulnérables. Alors, je pense que on veut protéger aussi le personnel qui travaille dans les milieux cliniques et de santé aussi, parce que là, j'ai regardé les statistiques et il y a 7500 travailleurs de la santé qui sont absents en raison de la maladie aujourd'hui. Mmh. Alors, il y en a beaucoup qui sont encore malades.
Oui, c'est en baisse quand même, faut le dire.
C'est en baisse et les chiffres sont en baisse. Je pense qu'on voit la descente de la sixième vague. Mm. On s'en va vers l'été, puis on voit que l'été de 2020 et de 2021, il y avait moins de cas, on était dehors, alors il y avait moins raison de porter les masques et tout ça. Alors, je pense que c'est sage de porter un masque. La chose que je pense est très importante de dire, c'est qu'il faut respecter le choix de ceux et celles qui vont continuer de le porter en public, ainsi que ceux qui décident, bon, c'est fini, je ne veux plus le porter quand je n'ai pas besoin de le porter, selon ce que le gouvernement me dit.
Mais d'entrée de jeu, je vous ai posé la question, est-ce que d'un point de vue de santé publique, ça se défend? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été annoncé aujourd'hui par Dr Boileau?
C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir si c'était la meilleure chose à faire. On voit qu'on est la dernière province à enlever le port du masque obligatoire. On essaie de le garder quand même comme un choix personnel qu'on doit respecter et de dire, bon, éviter l'infection, c'est vraiment éviter la COVID longue. Et puis ça, de plus en plus, tout le monde connaît des gens qui ont des symptômes qui durent des mois et des mois après une infection. Alors, je pense que je comprends bien que c'est le temps d'essayer ça, de voir est-ce qu'on peut respecter les choix des autres. Est-ce qu'on peut quand même continuer à avoir la réduction, non seulement dans la COVID, mais on a l'influenza, la grippe aussi qui circule.
OK. Vous êtes professeur à McGill, Dr Hankins. McGill a décidé de garder le port du masque obligatoire pour ses étudiants. Jusqu'à quand et pourquoi?
McGill, c'est le 24 mai. Concordia, c'est le 15 août. L'Université de Montréal, c'est le 12 août. Je pense que c'est juste par mesure de... C'est un geste efficace de protection. Et puis, comme vous le savez, ces universités-là n'ont jamais appliqué un vaccin obligatoire. Alors, il y a des étudiants qui ne sont pas vaccinés. Je pense que le port du masque, c'est un moindre mal. Et c'est facile à faire. C'est très facile à faire. Une chose que je voulais dire, que j'ai trouvé une étude qui a été faite à l'Institut national de santé publique le 15 au 27 avril. Et 84% des personnes disaient que porter le masque, ils pensent que les personnes qui portent le masque sont responsables et bienfaisantes envers la société. Alors, je pense qu'il y a des attitudes très positives envers des gens qui portent le masque. Il faut que ça continue.
Pensez-vous qu'on va entrer dans une ère où, même quand on sera sorti de la pandémie de coronavirus, là, dès qu'on renifle, la société va s'attendre à ce qu'on porte un masque si on est en public?
Mais d'abord, quand on renifle, il faut éviter de sortir et s'exposer à d'autres gens qui peuvent être vulnérables. Alors, ça, c'est une chose que nous avons appris, c'est qu'il ne faut pas se présenter au travail comme une personne héroïque quand on est malade.
Oui, mais Dr. Hankins, je m'excuse de vous interrompre. Ça, c'est facile à dire pour vous et pour moi. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement des congés maladie puis qui sont juste pas payés s'ils vont pas travailler. Eux,
mais ça,
font des calculs différents.
Il faut qu'on change.
Oui.
Il faut qu'on change ça. Il faut vraiment qu'on a les congés de maladie pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important si on veut vraiment freiner cette épidémie, cette pandémie et la prochaine qui s'en vient. Alors, c'est critique.
Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je vous en prie.
C'est la prochaine.
Merci.
C'était Dr Catherine Hankins, qui est professeure en santé publique à l'Université McGill.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.